Aujourd'hui, 7 août, Agathe, 23h43. C'est magnifique, sublime, extraordinaire. Il n'y a pas assez de mots. Petite, j'attendais la nuit des étoiles avec une impatience presque insupportable. J'attendais à peu près tout avec une impatience insupportable. Tout me semblait mieux que le présent. Il ne servait qu'à attendre ou à regretter. C'était une sorte de pont entre hier et demain, entre le passé et le futur. Entre la nostalgie et l'impatience. Avant même d'avoir atteint le moment tant attendu, avant même de l'avoir vécu, j'étais déjà envahie par une irrépressible mélancolie. J'ai tenté d'y remédier, de m'adonner à la méditation, d'ingurgiter des livres de développement personnel, mais si j'ai appris à apprécier l'attente comme un prologue du moment espéré, les lendemains me filent toujours la gueule de bois. Chaque été donc, j'attendais avec impatience la nuit des étoiles. C'était la promesse d'heures partagées avec Mima, mais aussi celle d'un spectacle éblouissant, le ballet des étoiles filantes. Mima nous emmenait ici, d'abord au pas de Roland pour se rafraîchir et prendre un goûter, puis au sommet d'une colline d'Itchassou, loin de toute pollution lumineuse, pour y planter son télescope. On observait des planètes, des nébuleuses et des galaxies, avant de s'allonger au sol. Je formulais toujours le même vœu quand une étoile lacérait le ciel, dans ma tête, pour qu'il ne perde pas son pouvoir. Je souhaite que ma sœur, ma grand-mère et ma mère soient heureuses toute leur vie. Plus tard, à l'âge où les nuages de la lucidité viennent charger le ciel de l'enfance, l'angoisse s'est incrustée dans nos observations. Je me figurais minuscule, insignifiante sous cette immensité. Ces étoiles, disparues depuis longtemps pour la plupart, ne faisaient que me rappeler notre fugacité. Au milieu de l'adolescence, j'ai abandonné la tradition, et malgré moi, j'ai mis fin au plaisir de ma grand-mère de nous enseigner sa passion. Il y a 3 ou 4 ans, je suis passée chercher Mima un soir d'août et je l'ai emmenée à Itchassou. Elle n'a pas eu l'air surprise, comme si elle m'attendait. Arrivée sur place, malgré ses efforts pour être discrète, je l'ai trouvée en train de pleurer. C'est toujours vertigineux. Il faut que je m'empêche de trop penser. Mais la magie opère de nouveau. Encore une ! S'exclame Mima en pointant son doigt vers le ciel. Je sais plus pour qui faire des vœux. Fais-en un pour moi. Déjà fait. J'ai demandé que tu te réincarnes dans la vaisselle. Comme ça, tu pourras lancer les couteaux mal rangés dans les yeux de celui qui les a mal rangés. Elle se redresse. Je sais, je suis un peu rigide sur certains trucs. Meuf, plus rigide que toi, il y a que le titane. Non, mais tu sais que les couteaux sont beaucoup moins bien lavés, la tête en bas. C'est comme les assiettes. Si tu ne les espaces pas suffisamment, l'eau ne peut pas passer, c'est juste logique. Je crois même que tu surpasses le titane. Elle éclate de rire. Tu sais qui était comme ça, demande-t-elle. Hitler ? Papa. Quand on allait chez lui, il fallait qu'on range nos chaussures perpendiculaires au mur, sinon il était obligé de les aligner. Bah, je me souviens pas du tout de ça. Une vague de tristesse me traverse. Je me souviens pas de grand-chose de lui, en fait. Normal, t'avais 6 ans. J'en avais 11. Ça laisse plus de temps pour remplir la mémoire. Raconte-moi. Elle se verse un verre de vin et se rallonge face aux étoiles. Il conduisait vite. Je me souviens que j'avais peur, surtout quand il prenait le virage juste avant d'arriver dans notre rue. J'étais persuadée que c'était à cet endroit que je mourrais un jour. Il écoutait Johnny Hallyday. Il connaissait ses chansons par cœur. Il arrêtait pas de chanter « Que je t'aime à maman ». Ah oui, je me souviens de ça. L'image se forme dans mon esprit d'une netteté impressionnante. Je suis assise à la table en mélaminé blanc. Je peux presque sentir le froid du pied en métal contre mon tibia. On vient de finir de manger, ma mère vide une assiette dans la poubelle. Mon assiette est encore pleine, j'aimais déjà pas les haricots verts. Je dois finir si je veux sortir de table, c'est mon père qui l'a dit. Il se lève, enlace ma mère et se met à chanter « Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime ». Ma mère lève les yeux au ciel, mais il continue de plus belle et elle finit par rire aux éclats. Je me souviens de son blouson en cuir, je dis. J'adorais son odeur quand il venait me faire un bisou en rentrant du travail. Quand il rentrait. Il rentrait pas toujours ? Non, maman l'attendait parfois toute la nuit. Je me levais plusieurs fois pour voir s'il était arrivé, elle était toujours assise sur le canapé. Elle m'engueulait, elle voulait pas que je la voie pleurer. Tu crois qu'il la trompait ? Je demande. Je sais pas, je vois pas ce qu'il pouvait faire d'autre. Oh, encore une étoile filante ! Je n'ai jamais envisagé que mon père puisse avoir des mauvais côtés. C'est l'apanage des morts, ils emportent leurs défauts dans la tombe. Cet homme que je connais finalement si peu a habité chaque jour de ma vie. J'ai pas grandi sans père, j'ai grandi avec un père mort. Je me suis construite sur le manque. Son absence marquait mon identité comme un deuxième prénom ou un grain de beauté. C'était l'une des premières choses que j'annonçais quand je rencontrais quelqu'un. Mon père est mort. C'était gênant, surtout quand ce quelqu'un était un vendeur qui avait eu la politesse de me saluer dans un magasin. À la maison, on n'avait pas le droit d'en parler. C'était un sujet tabou, comme les règles, le sexe et le foot. Une fois, j'ai tenté d'accrocher une photo de lui au-dessus de mon lit. Elle a disparu dans la journée. J'ai grandi en étant la fille qui avait perdu son père. J'inspirais curiosité, parfois pitié. À l'approche de la fête des pères, certaines conversations cessaient à mon arrivée. C'était rare, la plupart des enfants avaient leurs deux parents bien vivants. À une période où la moindre différence s'enferme dans une case, je me trouvais entre les roues et les homosexuels. Ce n'avait pas que des inconvénients. Ça m'a servi de caution, parfois. Quand je me comportais mal, quand je déconnais, je dégainais mon immunité. Faut me comprendre, j'ai perdu mon père. Je m'en suis même servi pour me donner bonne conscience. Je me suis persuadée que tout venait de là, que mes angoisses, mes douleurs, ces émotions qui me faisaient me sentir à part étaient dues à ce deuil précoce. Tout le monde y croyait, c'était une excuse intouchable. Je ne me trompais pas totalement. Mon mort a toujours été beaucoup trop vivant. « J'ai reçu une goutte, » dit Emma. « Un oiseau a dû te pisser dessus ?» J'ai pas le temps de finir ma phrase, la pluie décide de se joindre à nous. Elle n'arrive pas sur la pointe des pieds en postillonnant une goutte par-ci, une goutte par-là, non. Elle ouvre les vannes à fond et nous déverse tout son stock sur la tête. « Tenez, c'est cadeau, ne me remerciez pas. » J'aime la pluie, mais il faut pas abuser. On remballe plaid, pique-nique et télescope. On court jusqu'à la voiture, qu'on regrette finalement d'avoir garée aussi loin. On saute à l'intérieur. On se regarde trempée, découlinante, hilar. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, glousse Emma. Je crois que t'as jamais dit un truc aussi con.